Manuel Van Arscott, bonjour.
Bonsoir Jean-François Baudin.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour prendre le temps de comprendre ce qui se joue aujourd'hui derrière ce plan social engagé par l'ADEC et qui fait couler beaucoup d'encre. C'est la première fois que vous allez vous expliquer oralement sur ce sujet. Alors, on se souvient évidemment de l'affaire des cantines. C'était au mois d'octobre dernier. Par manque de financement et grosse inquiétude, vous aviez décidé de fermer les cantines un moment. On sait que le Congrès et les élus sont saisis du dossier, qu'il y a eu un vote d'une délibération le 30 octobre qui, pensait-on, avait réglé la question. Ça n'est pas le cas, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé entre la délibération du 30 octobre et votre décision d'engager un plan social ?
Alors, la décision du 30 octobre, nous avons reçu 300 millions. Nous aurions dû recevoir 300 millions. Ça a été conditionné par un audit, la création d'un audit. Je rappelle, ces 300 millions, ce n'est pas une subvention, c'est une contribution, car le gouvernement, et on le remercie ainsi que le Congrès, a voté ces 300 millions pour pallier le manque des communes et autres institutions pour l'année 2025 au titre de la délibération 360. Très bien. Donc, nous avons reçu ces fonds que pour moitié, 150 millions. 75 aurait dû, selon le vote du Congrès et signé par les intéressés, aurait dû nous parvenir avant le 15 décembre. Très bien, nous n'avons toujours pas reçu 75. L'audit a commencé en mi-janvier, le 13 d'ailleurs. Nous avons reçu l'auditeur. Voilà. Voilà pourquoi nous avons dû...
Ce qui veut dire que quand vous avez fait votre budget 2026, pour vous, il n'y avait pas les fonds nécessaires pour pouvoir passer l'année avec l'ensemble du personnel que vous avez à votre disposition.
Très bien. Vous parlez de budget 2026. Il n'est pas encore constitué. Je n'ai pas de budget pour la simple et bonne raison que nous n'avons aucune convention et que d'aucun participant. Et donc, je ne sais pas de combien je disposerai. Dans ces cas-là, le 17 décembre, le Congrès a voté les taux planchers de la délibération 360. Ils étaient à l'identique des deux années précédentes, alors que j'ai un courrier signé de la part du gouvernement comme quoi ces taux seraient revus à la hausse. Très bien. Les taux étant à l'identique, je sais pertinemment que je n'aurai pas les fonds suffisants et nécessaires si, toutefois, toutes les institutions payaient ce qu'elles n'ont pas fait les années précédentes. Donc, j'ai décidé d'un plan de licenciement collectif.
Avant de venir au plan, Manuel Van Arscott, est-ce que vous dites que les institutions n'ont pas payé ce qu'elles doivent ? C'est toujours le cas aujourd'hui, parce qu'on entend dire à la province sud, j'ai réglé, nous, tout ce qu'on devait régler aux enseignements privés. La province nord, on sait bien que la part des communes, elle ne la prend pas en charge pour l'instant. Est-ce que les institutions ne payent pas ce qu'elles doivent aujourd'hui à l'enseignement privé et à l'enseignement catholique en particulier ?
Voilà. Alors, deux choses. Les taux fixé de la délibération 360, nous l'avons déjà dit depuis 3 ans, sont insuffisants. Mais ça, c'est une chose. Par contre, et nous les avons déjà remerciés, le gouvernement prend en charge les lycéens pour le forfait d'internat. C'est parfait. Il a toujours assuré et assumé ses règlements. Et nous l'en remercions vraiment. La province sud également, nous l'avons déjà remercié et en public. Pour 2024, elle a payé pour les collégiens et a pris la part des communes à 100%. Parfait. En 2025, la province sud a pris la part des collégiens à 90% au lieu de 100 et a décidé de prendre que 75% de la part des communes, mais a diminué également de 10%. Donc, nous avons la démanque. Ensuite, la province des îles a conventionné avec nous. Très bien. Il manque également là quelques dizaines de millions, mais il y a un effort qui est fait et la province des îles prend en grande partie, la charge des communes. Très bien. Pas complètement. La province nord, quant à elle, a pris la charge des collégiens, sans souci, a payé son dû. Par contre, aucune commune de nord n'a payé ni en 2024, ni en 2025. Certes, les 150 millions sont venus un peu prendre en charge, mais pas suffisamment.
Alors, face à ces incertitudes budgétaires, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, vous avez décidé de réduire la masse salariale en engageant un plan de licenciement. Comment vous avez choisi les établissements qui allaient fermer ? Comment se sont faits les choix ? Et est-ce que vous avez réfléchi à des solutions alternatives ? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on rappelle que la rentrée scolaire, c'est dans une dizaine de jours et qu'il y a beaucoup de parents qui sont aujourd'hui encore inquiets.
Alors, je vais déjà parler sur la précipitation, là, le dernier moment, qu'on nous reproche. Et je comprends tout à fait. Très bien. Si au mois de septembre, août-septembre, le gouvernement, le Congrès, les instances nous avaient dit les taux ne seront pas bougés, nous aurions pu nous retourner davantage. Nous l'avons su qu'au comité de gestion de début décembre et nous avons été avertis des taux votés à l'identique le 17 décembre. Sachant ça, je savais pertinemment que je n'aurais pas les fonds nécessaires. Très bien. Donc, j'ai décidé un plan. Il faut quand même que tout le monde comprenne. On nous reproche de devoir communiquer beaucoup trop tard. C'est méconnaître le droit du Code du travail. Un plan de licenciement économique répond à des règles. Il y a deux réunions. Nous avons fait la première avec notre comité d'entreprise le 19 décembre, la seconde le 12 janvier. Ensuite, nous déposons auprès de l'inspection du travail le plan. Très bien. Ensuite, nous convoquons les personnels en entretien préalable. Nous ne pouvons pas communiquer avant. Ça nous est interdit. Si maintenant, dans les réunions, certaines choses ont fuité, ce que je regrette absolument, moi, je n'ai rien dit.
Mais vous saviez qu'en engageant ce plan fin décembre, en gros, le timing fait qu'il allait, s'il devait se concrétiser, arriver quelques jours avant la rentrée scolaire, ce qui est un vrai problème quand même.
Tout à fait. Mais à partir du moment où j'engage, je ne pouvais pas communiquer dessus. On me l'aurait reproché et ça aurait pu rendre le plan caduque. Voilà, on m'a bien prévenu, hein, l'inspection du travail et nos avocats nous ont bien prévenu que ça risquait de rendre le plan caduque. Je ne pouvais pas parler. Nous avons engagé des choses. Ça concerne 75 personnels. Effectivement, c'est beaucoup, mais un certain nombre vont être bénéficiés de mesures d'évitement, comme on dit, ou de reclassement. Comment, pour répondre à votre deuxième partie de la
question...
Nous avions déjà fait un regroupement d'internats fin 2024, effectif en 2025. Nous avons continué à faire ce regroupement entre internats. Il faut savoir que nous fermons certaines structures, mais nous gardons le même nombre à peu près d'internes accueillis, mais nous allons faire des économies d'échelle, comme on dit. On emploiera moins d'éducateurs d'internat, par exemple. Voilà. Donc, à Bouraille, nous fermons
le foyer Saint-Jean.
L'internat Saint-Jean, qui avait une vingtaine d'internes. Voilà, mais nous allons les redispatcher sur les deux autres internats de Bouraille qui restent ouverts. À Païta, également pareil, le foyer Saint-Léon va fermer pour quelques 20 élèves également et vont être redispatchés. Voilà. Ensuite, nous fermons deux internats sur la côte Est, c'est celui de la commune de Pointe-du-Miatier et à Puebo.
Alors, voilà. vous parliez de l'internat de Bouraille. On va écouter le maire de Bouraille, Patrick Roblin, qui a appris lui aussi la nouvelle de la fermeture de cet internat. Et puis, vous réagirez ensemble, Patrick Roblin, le maire de Bouraille.
C'est une immense déception parce que je suis un retraité de la direction de l'enseignement catholique. Et quand on ferme les internats, c'est jamais bon signe parce que derrière les internats, ça sera les tranquilles et puis l'établissement va fermer. Si les structures de collège, lycée n'ont pas un internat d'accueil, c'est toujours très compliqué. Je vois pour les communes de la côte Est, là, moi j'ai très peur que dans un an ou deux, c'est l'école qui ferme carrément. Hein. Pour moi, c'est un petit peu différent puisqu'il y a plusieurs internats et ils en ferment un. Il n'y a pas de réunion, je vais en provoquer une, moi, en tant que maire, pour savoir comment on va se passer la rentrée sur Bouraille pour avoir plus d'informations.
Voilà la réaction du maire de Bouraille, Patrick Roblin, concerné donc par la fermeture d'un internat de la DEC, le foyer Saint-Jean. Alors il y a deux choses dans ce qu'il dit le maire de Bouraille. Il y a d'abord l'inquiétude plus globale, mais il dit aussi, évidemment, on n'a pas été prévenu, il n'y a pas de réunion, on ne sait pas comment on va faire. Vous avez prévenu les autorités et les responsables des communes dans lesquelles les internats vont être fermés, ou vous voulez gérer ça juste entre la DEC et la DEC ?
Monsieur Baudin, soyons sérieux, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais enfin, ça fait des années que nous prévenons. Depuis 2018. Je n'ai passé mon temps qu'à cela toute l'année. Très bien. Et là, en fin d'année, on a l'impression qu'on découvre ça comme des vierges effarouchées en disant « Ah, mon Dieu, il ferme !» Les financements ne sont pas au rendez-vous. Nous l'avons dit, répété, combien de fois ? Personne, je suis content, malheureusement, que Patrick Roblin, que je connais d'ailleurs par ailleurs, s'en émeuve. Mais que ne sont-ils pas émus plus tôt ?
Oui, mais ils ont appris la fermeture de l'internat concernant leur commune tardivement. Ils savaient qu'il y avait des risques.
Ils savaient très bien. Tout le monde savait que les financements n'étaient pas au rendez-vous. Donc, comment voulez-vous ? Enfin, il fallait être vraiment, aveugle ou sourd pour pas. Combien de fois nous avons dit ? J'ai écrit, suite à la crise des cantines dont vous parliez tout à l'heure, j'ai écrit une lettre aux parents qui est arrivée également dans toutes les institutions où j'ai dit sans modification, sans rajout. Nous risquons un plan de licencier du personnel et nous risquons de fermer des structures. Personne s'en est ému. Et là, quand nous mettons, tout à coup, on s'aperçoit. Il y a des institutions qui sont venues vers moi en me disant « Au secours, que faites-vous ? Pourquoi ?» Mais, enfin, c'est... Les maires, Monsieur Roblin, et je lui reconnais ceci, quand j'ai demandé à Monsieur Roblin l'application du forfait d'internat pour les écoles primaires, c'est le seul maire qui m'a répondu par écrit et qui m'a dit, nos finances ne nous permettent pas, etc. Personne d'autre n'a répondu. Et maintenant, on s'étonne. Voilà. Je voulais dire un mot sur les petites structures qu'on fermait sur la côte Est. Hein. Il y a 5 micro-cantines. Quand je parle de micro-cantines, ce sont des cantines où nous nourrissons entre 20, 25, 30 élèves maximum. Très bien. Nous avons des coûts incroyablement élevés, proportionnellement hein, au nombre. Les communes ne nous aident pas. Donc, ils veulent garder un service de proximité. Les parents le veulent aussi. Et voilà.
Et ça ne peut aussi... pas être gratuit.
Ça ne peut pas être gratuit. Et il faut évoquer aussi, sans stigmatiser, mais évoquer quand même, il y a un certain nombre d'impayés des parents. Tout ceci fait que nos finances sont au plus mal.
Alors, ce sera ma dernière question, Manuel Van Aerschot. On sait que pour essayer de faire en sorte que les financements soient pérennes, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour financer les enseignements privés et l'enseignement catholique. Il y a aussi une demande accompagnée. OK, on vous a versé une aide exceptionnelle l'année dernière. Il faut aussi accompagner ça d'un audit pour voir quelle est la situation de l'ADEC. On entend bien dans les propos de la membre du gouvernement en charge de l'enseignement, Isabelle Chamorro, elle dit, mais finalement, l'ADEC joue pas le jeu et cet audit qui devait être lancé, il est toujours pas lancé parce qu'on nous transmet pas les documents qu'on demande. Qu'en est-il exactement ?
Alors, si ce que vous dites, ce sont les paroles exactes de Madame Chamorro, je m'inscris en faux. Pour la simple bonne raison que l'audit...
Elle parle de manque d'adhésion à la démarche de votre part.
C'est pas pareil. Un manque d'adhésion, c'est pas un refus de coopérer. Voilà. Très bien. Donc, le 13 janvier, j'ai reçu en personne avec deux de mes adjoints l'auditeur du cabinet Grant Thornton. Nous avons eu un échange. 48 heures après, je lui ai amené sur un disque dur externe plus de 12 000 fichiers. Très bien. Ce qui représente en gros 80% des demandes. Parfait. Il m'en a demandé d'autres. Vous savez maintenant que nous sommes en plan licenciement, que jeudi, vendredi, j'étais à Koné. Nous sommes extrêmement pris. Effectivement, il y a les pièces que Madame Chamorro cite dans son document. Effectivement, ils vont arriver. Ensuite, il me demande des pièces comptables de 2025. Très bien, ces pièces comptables, l'expert comptable ne les a pas encore étudiées, voilà, rangées. Donc, je lui ai dit, ça arrivera d'ici 15 jours. Ensuite, il y a une dernière chose. Dans le cahier des charges donné par le gouvernement, il est question de masse salariale, d'étudier la masse salariale. La demande de l'auditeur est de fournir des contrats de travail individuels ainsi que les fiches de salaire. Très bien. Et c'est marqué sur demande fléchée. Très bien. Donc, j'ai refusé, j'ai contacté mes conseils, j'ai signifié à l'auditeur du cabinet Grant Thornton que ce n'était pas possible, car la loi RGPD qui s'applique...
Sur la protection des données personnelles.
Sur la protection des données personnelles, merci, ne m'interdisait de fournir. Très bien. Il m'a dit que non, ça ne s'appliquait pas à lui. J'ai le décrit. J'ai répondu avec les justificatifs juridiques, les numéros de loi, enfin tout ça. Et, maintenant, on me dit que, comme je ne fournis pas, eh bien, on bloque les 150 millions. Il faut savoir que si je donne un contrat de travail avec la fiche de paye, le personnel concerné peut m'attaquer en justice. Je n'ai pas envie de me retrouver en haut de la butte avec 500 personnels qui portent plainte.
Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça, Manuel Van Aerschot ? On a l'impression qu'il y a effectivement un bras de fer entre l'ADEC et certaines institutions. Quel est le fond de cette affaire ? Est-ce que c'est juste une question financière et d'organisation ou est-ce que, selon vous, il y a d'autres intentions ?
Alors, financière, je peux comprendre. Nous ne vivons pas hors du monde. Hein. La Calédonie connaît des soucis financiers sociaux extrêmement importants. Nous connaissons tous la baisse démographique, nous la subissons, très bien. La répartition géographique des communes, des tribus, etc., fait que c'est très éloigné, il y a un émiettement sur le territoire. Donc, on est obligé d'avoir des petites structures par-ci, par-là, et effectivement, ça coûte davantage. Le gouvernement, et je peux le comprendre, essaye de faire des économies d'échelle en rassemblant avec le DGE, le directeur général de l'enseignement, également vice-recteur, essaye de faire des économies en regroupant. Voilà. Mais il y a des endroits où nous ne pouvons pas. Les enfants, on ne va pas leur faire 25 km. Très bien. Il y a des endroits où les familles, il n'y a pas de bus, les familles n'ont pas de voiture. Voilà. Donc, on essaye. Je vais répondre maintenant un peu plus précisément. Ce qui se joue, c'est que nous voulons, et c'est dans la lettre de Madame Chamorro, on veut nous imposer la carte scolaire. Je rappelle que nous avons signé avec l'État, et ça a été précisé dans le transfert de compétences à la Nouvelle-Calédonie, nous avons signé des contrats d'association pour le primaire et le privé, où nous ne sommes pas soumis à la carte scolaire.
Mais sans être soumis à la carte scolaire, vous êtes prêt à en discuter éventuellement ?
Bien entendu, toujours. Voilà, bien entendu. Mais on en discute comme nous en avons discuté à Thiot, où on nous dit, c'est le collège privé qui ferme, point barre. Parce que, rappelons, une dernière petite précision, monsieur le maire de Boulou-Paris a demandé, et je peux tout à fait comprendre la volonté d'un élu, un nouveau collège va sortir de terre à Boulou-Paris, puisque une centaine, vous vérifiez les chiffres, mais une centaine de jeunes collégiens de Boulou-Paris vont à la fois actuellement. Si ce collège sort de terre, c'est le collège public ainsi que le collège privé qui seront mis à mal à la fois. Donc je ne vais pas attendre 2 ans, voire 3 ans, pour payer du personnel, creuser le déficit à la fois, eh bien, je ferme le collège de... L'internat.
Du collège de Michel.
Je précise qu'aucune structure d'enseignement pédagogique ne fermera.
Manuel Van Arscott, un grand merci d'avoir pris le temps de venir vous expliquer sur la fermeture des internats de la DEC, décidée donc à l'issue d'un plan social. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la rentrée, mais merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci à vous, Jean-François Baudin. Bonsoir.